Bonjour à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il a présenté, entre autres, C'est encore mieux l'après-midi, Coucou c'est nous, Ciel mon mardi, Tout le tout team, Une famille en or, Face au mur, La ferme célébrité, Apprendre ou à laisser.
Comme un lundi.
Sans parler de toutes les émissions qu'il a produites. Récemment, on l'a même vu en format comédien, gendarme dans Capitaine Marlowe. Il a travaillé, entre autres, pour Radio 7, France Inter, Europe 1, RTL, RTL 2, Antenne 2, France 2, TF1, TMC. Si un jour il se réincarne, ce sera à coup sûr en écran de télé. Cet écran qui l'a dévoré pendant des années, mais qui depuis a un peu pris ses distances avec lui. On s'était pourtant habitué joyeusement à le voir entrer sans effraction dans nos salons, bruyant, parfois excessif, toujours joyeux. Il a accompagné nos vies, c'est vrai, mais sans que l'on sache grand-chose de la sienne. Aujourd'hui, l'invité de Hors Piste est une sorte d'hyperactif en sous-régime. Il s'appelle Christophe de Chavannes.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
498, 499, 500.
Oh, wow. Vous êtes exceptionnel, hein?
Ouais.
Hey, mesdames, messieurs, bonsoir.
Alors Christophe, comment ça va?
Ça va pas bien.
De Chavannes, qui avait démarré à la rédaction, je me souviens l'avoir envoyé sur un reportage au moment de la rentrée universitaire. Il n'y avait pas Ravel à l'époque, on faisait la queue. Et il avait donc interviewé des tas d'étudiants qui râlaient très très fort parce qu'ils attendaient beaucoup pour pouvoir s'inscrire. Il est revenu en fait avec un reportage qui était tellement drôle que Patrick Meyer est parti dans une rage folle et a dit « Puisque c'est ça, tu restes pas à la rédaction, je te mets du côté des animateurs. »
D'abord, les jeux n'ont pas énormément changé. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est la manière dont un animateur va pouvoir transformer une émission où il n'y a rien à faire, où on se morfond tellement, c'est monotone, comme la roue de la fortune, pour prendre un exemple très précis, c'est une chaîne concurrente, pardonnez-moi, mais faut citer un exemple, et où un animateur, c'est-à-dire De Chavannes, par sa folie, par son côté De Funès insensé, parce que c'est vraiment un De Funès De Chavannes, hein, c'est bon, va en faire autre chose.
Le cheval parle ! Le cheval parle ! J'ai un cheval qui parle !
C'est un capybara.
Un capybara.
C'est le plus gros rongeur du monde qui vit en Amérique du Sud. Il doit peser à peu près 50 kilos. C'est très lourd, hein. C'est très dense.
Ouais.
Ça vit en troupeau d'une vingtaine d'individus.
Oh, il s'en va. En liberté.
Et ils vivent en liberté. Ils adorent l'eau. C'est des animaux qui plongent.
Non, tu peux. C'est des animaux qui plongent.
Non, c'est bon. C'est bon. C'est des animaux qui plongent.
Ah, c'est une horreur.
C'est des animaux qui plongent.
Non, c'est rien, il m'a juste aspergé de 2 litres de pipi.
Je peux profiter de votre antenne pour lancer un appel aux téléspectateurs.
Allez-y.
Alors, si vous êtes intéressé ou si vous avez des soucis sexuels, n'hésitez pas à nous téléphoner, on va vous donner un numéro d'ici quelques secondes.
Ça m'étonne pas que vous ayez pensé à ces problèmes-là.
Mais je vous parlais pas à vous, Jean-Pierre. Hein.
Non, mais... Enfin,
je vous parle un petit peu hargneux, quand même.
Et maintenant, ça y est.
Et ça décoiffe, ça se calme, ça trouve le cul.
Ça, comment ? Ça marche bien. C'est ce que vous vouliez dire par là.
J'ai dit, ça décoiffe, ça se calme, ça trouve le cul.
D'accord. Donc, je traduis, ça marche bien.
Pourquoi tu ne tutoies pas, mon petit gars ?
Bah, parce que, je sais pas.
Tu es intimidé.
C'est un... Non, c'est un reste... Enfin, un petit peu intimidé, si, bien sûr. Et un reste d'éducation judéo-chrétienne.
Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible, car c'est pour la bonne cause.
Ça j'aime le plus, c'est vos yeux. Ça peut me dire.
Le jeudi également, c'est aujourd'hui, il est là, arrêtez. Et tout de suite. Et donc, vous téléphonez à un numéro de téléphone, vous, téléspectateurs, vous téléphonez à un numéro de téléphone que vous allez voir maintenant. Nanana. Et c'est épouvantable ce que vous faites, parce que je perds tous les moyens. Et celui des 3 jours qui aura obtenu le plus grand nombre de coups de fil, eh bien, il se déshabillera demain. Voilà, alors on va voir la fenêtre maintenant.
C'est super, c'est ce que vous venez de faire là, c'est rigolo.
C'est à vous là, c'est le générique de Ciel mon mardi.
Oui, je sais, oui.
Bah, allez-y, lancez l'émission.
Ah, qui compte. Non, il me faut un peu de public, il me faut un peu d'élan.
Ça vous fait encore quelque chose ou pas, Christophe
Tout ce que j'ai entendu, la plupart des trucs, oui, ils m'ont fait quelque chose, oui.
Ouais.
Oui, il est chouette ce montage. Je ne validerai pas tout, mais non, bah tu te rends compte. c'est Gainsbourg qui me parle, c'est des souvenirs. Non. Ben, je me suis vraiment éclaté, on va dire. C'est comme les mecs qui ont connu les 30 glorieuses dans leur vie et qui ont connu, je sais pas, les années 50, 60, où tout était libre, où on pouvait fumer dans les boîtes, flirter sans se poser de soucis et même faire l'amour et tout ça. Et voilà, moi j'ai connu pas ça, mais j'ai connu cette liberté-là à la télé.
Bon, vous l'avez compris, c'est Christophe de Chavannes qui est dans Hors Piste. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, pardon, excusez-moi, on n'a même pas dit bonjour, c'est malin.
Qu'est-ce que vous auriez ajouté à cet autoportrait, vous, là dans un...
Je sais pas, c'est assez complet quand même, ouais. La petite peinture, là. J'aurais ajouté peut-être un peu de Comme un lundi.
Ouais.
D'ailleurs, c'est marrant parce que vous ne l'avez pas cité dans le...
Vous l'avez rajouté, on l'a entendu.
Votre lancement était très, très aimable aussi, je vous le dis, très gentil, très bienveillant, c'est agréable, par les temps qui courent. Mais, oui, Comme un lundi, c'était très important parce que ça marchait très, très bien. C'était une émission, une espèce d'agora, comme ça, et moi, j'étais tout seul en bas sur le couvercle d'une boîte de conserve, dessiné, hein, et on donnait, il y avait encore beaucoup de liberté, on donnait la parole à tout le monde, et j'ai retrouvé par hasard un jour dans un 13h de France 2, au moment de l'affaire, un certain Cahuzac, debout, en train de faire 10 minutes sur la probité des hommes politiques,
comme
la
quoi.
Transparence, etc. Et c'était à du faire des épisodes, je m'en souvenais pas du tout.
Je suis pas bienveillant ou gentil.
En tout cas, il y a plein de jeunes gens, pardonnez-moi de vous interrompre,
il
y a plein de jeunes gens qui vont rien comprendre, parce que ce que vous avez monté là, et très bien monté, hein, je ne sais pas qui l'a fait.
C'est un travail d'équipe.
Oui.
Marie Merrier, Charlotte.
Eh ben, faut les féliciter. Là, il y a des gamins, ils savent même pas de quoi on parle. Hein.
C'est quand
c'est ça qui fait chier.
Je vais vous dire un truc. Quand j'ai donné votre nom en bas à l'accueil de Radio France, vous connaissez bien cette maison, hein, vous y avez beaucoup travaillé.
Et elle vous a dit c'est qui?
Non, elle savait pas le noter. Elle, c'est oui. Bizarre, non?
Je l'ai vue, hein. Elle m'a demandé, oui, c'est qui, c'est pourquoi. J'ai dit que je venais pour un examen gynécologique. Alors elle a pas tout. Mais je vous jure.
Le temps qui passe, c'est aussi comme ça qui se traduit. Ça vous travaille, vous avez aussi beaucoup.
Comment ça, ça me travaille? Vous allez voir quand vous allez avoir 64 balais, comment on passe dans une autre dimension. C'est-à-dire jusqu'à il y a, je sais pas, un an, deux ans. Moi, je me rappelle quand j'ai fêté mes 53 ans. Je fais une fête tous les ans. Bon, et donc les trois dernières années, évidemment, je l'ai pas fait. Et quand j'ai eu 53 ans, j'ai dit que je voulais au prochain anniversaire que je voulais un défibrillateur que j'ai eu. Et je me suis dit, mais bon, après tout, tu vois, 60 balais, oh là là, mais 60 ans, c'est dans longtemps. Mais comment c'est dans longtemps? J'ai l'impression que mes 53 ans, c'était il y a quelques mois ou petites années. Et là, 64 ans, on approche dans un truc. Moi qui ai défié un peu, entre guillemets, j'étais pilote d'hélico, j'étais pilote de course, enfin j'ai fait beaucoup de conneries.
Vous avez tout fait très vite?
J'ai tout fait assez chaudement, c'est-à-dire que quand j'étais pilote d'hélico, j'étais vraiment pilote, quoi. Ouais. Donc j'ai vécu un peu, un peu rapidos, mais bien, je me suis éclaté. Et j'ai donc trompé la mort, entre guillemets, plusieurs fois. J'ai eu des cartons en course énormes, je suis parti à l'hosto, enfin voilà. Et j'ai jamais pensé. Et là, j'ai pas de carton, je fais plus de course, je fais plus d'hélico, et j'y pense tout le temps. Vous voyez, donc, on passe vraiment dans une dimension différente. Mmh. C'est relou, hein. Alors, comme je suis un peu hypocon, en plus, ça n'arrange pas les choses.
Briac. Je fais partie,
oui,
donc, de ceux très, très nombreux qui vous aiment vraiment sans vous connaître. On s'est croisés une ou deux fois.
Oui, moi, pareil, hein. Ouais. Je vous le resserre.
C'est vous l'invité, hein. C'est vous qui
êtes. Non, mais on s'en fout, on se mouille pas la compresse, on se dit des trucs.
vous faites partie de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier, je dis sincèrement. Je venais, moi, ici, dans la maison de la radio, voir vos émissions. Coucou, c'est nous, c'était enregistré en bas.
Ouais, c'est un truc de ouf, ça.
Ouais, exactement.
C'était au 102 de la maison de la radio.
Exactement.
Et c'était 642 places assises.
Pleines.
Toutes les jours.
Tous les soirs. Parce qu'on galérait pour avoir des places.
Ouais, c'est ouf.
Et pourtant, mais toujours un peu fait peur, un peu impressionné. Pourquoi? Il y a ça chez vous?
Ouais.
Pourquoi?
Et je ne sais pas.
C'est une protection?
Je sais pas. Et c'est parfois un problème, parce que la sincérité, parce que peut-être que ça bloque dans certaines situations où ça ne mériterait pas de l'être, ça empêche des personnes peut-être de me dire des choses ou de faire des choses. Alors fut un temps, il fallait bien que je fasse peur, parce que il y avait des gens qui étaient très désagréables. Je suis un mec très gentil, en vrai. Et donc, mais quand il y a des choses désagréables qui se passent, on est un peu obligé de montrer qui c'est, Raoul. Alors j'ai un peu peut-être poussé dans ce sens-là, en faisant croire que j'étais capable de tout, alors que je suis capable de rien. Enfin, violemment, en tout cas. Mais je sais pas, oui. Mais parce que quand j'étais môme, ni ado, ni tout ça, je faisais pas peur. Au contraire, j'étais plutôt solitaire. Tous mes potes étaient en bande. Moi, j'étais pas tellement en bande. Je sais pas. Mais oui, je sais que j'ai un peu inspiré ça.
Ouais.
Peut-être encore parfois.
Vous en êtes où vous dites, quand j'étais môme, sur l'échelle ouverte de vos rêves d'enfant, vous en êtes où, là?
Ah, j'ai été pilote de course. J'ai été pilote d'hélico.
Et vous rêviez de ça, gamin? Vous rêviez de télé, gamin?
Je rêvais d'être cascadeur. Ah oui, je n'avais pas de télé, non. Ouais. J'ai construit une maison de campagne, enfin j'ai restauré une maison de campagne qui sera là encore dans X siècles. Donc ça, pour le coup, on fait un métier tellement éphémère, tu tournes le bouton, c'est fini. Enfin, quand je vois les gens qui meurent, on en parle 5 minutes. Les gens connus, on en parle 5 minutes, on est ému. Et puis, voilà, comme l'actualité chasse l'autre, vous le savez mieux que ouais. moi. Donc... non, je vous dis oui, mes rêves d'enfant, enfin être devenu pilote automobile, être devenu double champion de Belgique en super tourisme, vice-champion de France et tout ça, ça c'était chaud pour moi parce que il y avait pas de jugement, c'est un chrono. C'est-à-dire que ils pouvaient se foutre de ma gueule au début les mecs, mais je me suis attelé à la tâche, j'ai appris sur la piste parce que j'avais pas le temps, le reste de la semaine je travaillais. Mais je parle pas tellement de moi en fait.
Ouais, c'est ça, vous avez pas parlé de vous. Hein. Vous adorez faire parler les autres, mais vous parlez pas de vous. Mmh. Vous êtes timide ou pas?
Oui.
C'est vrai? Mmh. Ouais. Alors, ce que j'ai découvert.
Enfin, moins en moins quand même.
Timide soigné.
Mais j'ai été très très parano pendant 15 ans parce qu'il y a eu un moment quand même où j'étais très. Enfin, je veux dire, la célébrité c'était très. Enfin, c'était, ouais. c'était chaud quoi. Donc, c'était difficile pour moi. Enfin, je suis pas allé en vacances en France pendant 25 ans.
Pourquoi vous craignez quoi?
Ben parce que les gens sont très gentils, mais tu peux pas être sur la plage avec tes mômes, t'es prends photo, enfin ouais. voilà, ou alors t'es sollicité, ou alors t'as 200 mecs qui te crient dans l'après-midi coucou dans ouais. l'oreille, ouais. Et c'est pas méchant au départ, mais
au 200e on est anti-agressif.
Ouais, c'est ouais. non, mais comme j'aime pas être agressif, bon ben voilà. Donc parce que j'ai eu une époque très connue quoi, j'avais un taux de notoriété, je sais pas, il y a un sondage qui était sorti, c'était ouf.
Mais vous l'êtes encore là, non? Vous êtes venu il y a quelques semaines à France 2, il se passe quelque chose quand vous arrivez quelque part, vous le savez.
Non.
Si.
Oui, mais de sympathique.
Oui, bien sûr.
Il se passe quelque chose, bah parce qu'il y a des gens qui me disent comme vous, j'ai voulu faire ce métier un peu à cause de vous, je sais pas quoi. Non, puis non, mais j'ai des bons rapports avec tout le monde, moi. Hein. Je veux dire, un jour, je me suis pris la tête avec quelqu'un à TF1 il y a longtemps et qui m'a dit, oui, de toute façon, même avec les techniciens, tout ça, ça va pas. Je dis, je suis le seul mec probablement de ce métier qui connaît tous les cadreurs par leur prénom. Mmh. Et je fais pas semblant.
Quand vous faisiez une rédaction à l'école, ça partait dans tous les sens comme ça, quoi. Vous arriviez à
une
rédaction.
C'est quoi?
Non, vous savez pas. Un truc,
si. Ça partait un peu dans tous les sens, sûrement, oui. J'avais pas des trop mauvaises notes en rédaction. Ouais. C'était pas là où j'étais le plus nul. Mmh.
Vous avez commencé dans l'immobilier, votre vie professionnelle, c'est
ouais,
ça?
Ouais. C'est-à-dire, je vendais.
Un destin à la Stéphane Plaza, quoi, à l'origine.
Oui. Enfin non, parce que non, parce qu'il a fait une grosse réussite dans l'immobilier. Hein. Mmh. Je pense que le mec, il est blindé et tout va bien. Il n'est pas inquiet, c'est très bien. Mais enfin, c'est très bien. Je suis très gentil. Enfin, je connais très peu.
Mmh. Non, mais c'est vous qui m'intéressez. Hein.
Oui. Bah, je sais pas. C'est vous qui me parlez de Stéphane Plaza. Hein. C'est pas moi. Et c'était quoi que je voulais dire? Oui, non. En fait, j'ai commencé à refaire des apparts. Ça veut dire que j'avais des flirts et je refaisais les appartements des parents de mes flirts. Ah. Mais je faisais moquette, tissu. Je posais du tissu anglaisé, c'est-à-dire sans galon.
Sans galon.
Voilà. Et donc je faisais de l'anglaisage. Je peignais aux grandes dames de ma mère, hein, donc qui me voyait travailler 2 mois et rien foutre 3 mois. Et à qui je disais, t'inquiète, le jour où je trouverai un truc qui me plaît, j'irai à fond, et c'est ce qui s'est passé.
Mmh. Et puis, il y a la carte de presse.
C'est ma grand-mère, la première, qui m'a dit, tu devrais faire de la télé comme Patrick Sabatier. Et bon, qui n'était pas pour moi une référence absolue. Enfin, à l'âge que j'avais, Patrick Sabatier, j'étais pas, voilà. C'était plus Denisot, moi. Rien contre Sabatier, hein, mais bon. Et c'est ma grand-mère qui a eu cette idée-là, la première. Et j'ai dit, mais non. Et en fait, c'est arrivé tout à fait par hasard, parce que j'ai rencontré un mec en jouant au tarot. Et ce mec, au bout d'un mois ou deux, de 4-5 parties de tarot acharnées, on était 5, j'ai dit, mais tu fais quoi, toi? Parce qu'on s'entendait bien. Et il était journaliste. Alors, je suis allé le voir travailler tous les week-ends. Ce qui a fait que je me suis fait quitter par la fille avec qui j'étais, parce que comme je la voyais pas de la semaine avec mes peintures et mes moquettes, et que le week-end j'étais à la radio, ici, parce que le mec s'appelait Jacques Esnault.
C'est Jacques Esnault, le patron d'RTL aujourd'hui.
Voilà.
Et c'est lui qui vous permet d'avoir la carte de presse?
Pas du tout, non.
Moi, je sais pas, carte de presse 43207.
Ouais, mais ils me l'ont enlevé à Antenne 2 quand j'ai fait cet encore mieux après-midi. Ils voulaient absolument que je la quitte. Donc, j'ai arrêté, mais j'ai galéré pour l'avoir, parce que ouais. pour avoir une carte de presse, faut avoir des salaires. Comme journaliste. Ouais. Et pour avoir des salaires comme journaliste, il faut une carte de presse. ou une école de journaliste que je n'avais pas fait. Ouais. Et donc, j'ai galéré ma race. J'ai même essayé de tricher à un moment, parce que ma mère était pigiste. Elle avait donc des salaires en tant que pigiste au... dans Figaro littéraire ou dans ouais. Elle ou machin. Et j'avais essayé de lui piquer ces trucs en mettant M de Chavannes, comme si je m'appelais Monsieur ou Marc, pour essayer d'avoir une carte de presse. Et ça n'a pas marché.
Quand vous partez en reportage d'être reporter et tout ça, vous dites ça c'est ma vie ou vous dites ça c'est une marche vers ce que je veux faire?
Ah non, je me dis ça c'est ma vie. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais été genre. Je vous dis, à part cascadeur, je me suis jamais dit je veux faire ça plus tard. Mais quand j'étais avec un agra, même lourd, parce qu'au bout de quelques heures, c'est très lourd, les anciens, et que je piquais même quelquefois. Ici, j'ai piqué un agra un jour.
À Radio France.
Ouais, mais j'ai rendu. Hein. Hmm. Mais je l'ai piqué. Je me suis introduit dans la soirée des Césars. Au Fouquet's, en faisant un signe de loin, parce que le flic m'empêchait de passer, il y a José Arthur qui est passé de loin, qui ne m'avait jamais vu de sa vie. Je fais « José !» Il se retourne, il me fait signe, je dis « je travaille avec José », et j'avais le Nagra marqué
France Inter. Nagra, c'est le gros enregistreur à l'époque, oui. Avec la bande, voilà.
Voilà, avec les bobineaux, comme oui, on disait. Exactement. Et j'étais très fort en montage, avec ma réglette et mon bleu.
On coupait tout avec des petits ciseaux, des petits scotch et tout ça, voilà. Il n'y avait pas de numérique à l'époque.
Non, mais c'était très rigolo de faire ça, c'était très intéressant de laisser une respiration, c'est très intéressant le montage à la main. Et, enfin, un montage aussi numérique, ouais. J'imagine, mais je connais pas. Et je suis rentré, et j'ai fait l'interview de Gérard Depardieu, qui était totalement torché, à 2h du matin, en disant que les Césars, c'était de la merde, que Craven, c'était de la merde, que tout ça, c'était de la merde et tout. J'étais comme un ouf d'avoir ça. Je suis rentré ici, à 2 du mat, tout seul. Je suis allé dans une cabine de montage, j'ai fait mon petit montage, mon petit bobino, et je suis allé le donner à Denis Astagno, qui présentait le 6h du matin à l'époque, hein. Et je lui ai donné le bobino, j'ai dit tiens, parce que je traînais dans la rédac quand même, puisque je connaissais Jacques. Et je lui dis tiens, regarde, écoute ça. Il me dit non, t'es gentil. Je dis si, mais écoute, regarde, ça vient des Césars, j'ai fait Depardieu. Il me dit non, t'es gentil. Et il me montre une espèce de bite comme ça, autour de laquelle étaient enfoncés tous les bobineaux qu'il avait, qu'avait fait à l'époque Sophie Dumoulin, qui était la responsable du cinéma ici pendant 2 siècles. et je lui dis mais écoute-le quand même. Il me dit non, mais t'es gentil, j'ai tout ça. Bon, bref, je rentre chez moi, il est 4h30. Je mets mon réveil à 6h moins le quart, et j'écoute à 6h, et à 6h, j'entends Denis Astagno qui dit « Et une interview exclusive pour France Inter de Gérard Depardieu par Sophie Dumoulin. » Et là, le malaise. Parce qu'en fait, il pouvait pas dire mon nom, j'étais rien. Oui. J'étais rien ici, j'étais que dalle. Bon, là, je suis revenu, j'étais pas content. Hein. Oui. Donc, ça m'a permis de dire « Hey, les gars, c'est moi qui fais ça, là. Oui. » Donc voilà.
Ce qui est sûr, c'est que Depardieu vous a parlé ce soir-là. Tout le monde vous a parlé, en fait. Tout le monde venait sur vos plateaux télé. Simone Veil, par exemple, dans l'émission Toute folle de lui en 1986.
Alors, votre mari dit de vous, on ne la force jamais à dire ce qu'elle ne veut pas dire et pas davantage à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Alors moi, je vais quand même vous demander quelque chose pour conclure. Je vous ai toujours connu avec un chignon. Est-ce que si je vous demandais maintenant, étant donné qu'on est dans cette phase de séduction, de charme, etc., c'est vrai qu'une femme à cheveux longs est toujours différente d'une femme à chignon. Si je vous demandais de défaire votre chignon, est-ce que vous le feriez?
Oh, ben bien sûr.
Alors je vous le demande.
Ben voilà, tout de suite, si vous voulez. Je n'ai pas toujours eu les cheveux longs et je regrette beaucoup d'avoir les cheveux longs. J'ai les cheveux longs depuis que je suis ministre. Enfin, j'ai commencé à les laisser pousser à ce moment-là parce que c'était beaucoup, beaucoup plus facile de se recoiffer quand on est en voyage tout le temps et qu'il faut être pratiquement présentable. Sinon, il faut pouvoir aller chez le coiffeur tous les jours, ce qui n'est pas...
Ce qui n'est pas toujours facile.
Ce qui n'est pas facile.
C'est la première fois peut-être qu'on va voir la télé avec les cheveux longs.
Oui, je crois.
Je suis ravi.
Ça m'est égal.
Je suis tout à fait... Moi,
ça m'est égal, j'aime bien avoir les cheveux...
Je suis tout à fait ravi.
Mais ça m'est arrivé une fois ou deux, tout de même, à des restaurants. Je me souviens une fois, comme ça, aux États-Unis, où j'étais d'ailleurs en déplacement officiel, et j'ai voulu aller me faire un chignon chez le coiffeur pour être recoiffé pendant le voyage. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et je n'ai pas pu trouver le coiffeur qui sache faire les chignons. Il n'a pas pu. Il m'a dit je ne peux pas. Alors j'avais qu'une chose à faire, c'était accepter d'avoir les cheveux longs.
Simone Veil, elle était stricte, elle n'était pas toujours commode, elle n'était pas toujours aimable. Comment vous faisiez pour obtenir des choses comme ça? Je vous ai senti un peu ému en l'entendant.
Quelle
là.
Merveille cette femme, quelle merveille.
On l'a jamais vue comme ça, on l'a jamais entendue comme ça.
Écoutez, je sais pas, vous savez, c'est... je sais pas, mais j'ai un vrai rapport avec les gens, enfin, je fais pas semblant, je suis pas dans un personnage. D'ailleurs, tout mon travail, pendant toutes ces putains d'années, c'était de ne pas être autre chose que moi. Oui. C'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on fait ce métier. Vous le savez, c'est d'être le plus naturel possible et de ne pas être en posture de quoi que ce soit.
Le plus beau compliment, c'est quoi? Quand on vous dit vous êtes dans la vie.
Mais là, j'ai une voix de merde, en revanche.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous disiez...
Je ne sais pas.
J'ai demandé de retirer son chignon.
Et franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas parce que je ne l'avais pas du tout préparé. C'était pas du tout, c'était même pas réfléchi. Ben, personne n'y avait pensé, quoi. Mm. Enfin, moi non plus. Mais je ne sais pas, je la voyais. Elle était tellement délicieuse, elle était tellement, la femme, la mère, la grand-mère, la sœur, tout idéal en fait. Ouais, j'étais totalement
impressionné.
Je ne sais pas, oui, et puis impressionné et en même temps, je lui ai demandé de déchignoniser ce qui est, tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu intime comme truc. Enfin,
c'est très impudique.
Oui, voilà, ouais. Voilà. C'est rigolo. Mais elle l'a fait en plus avec... tu vois, elle m'aurait dit non, c'était fini,
c'est
toi.
C'est quoi ce tatouage là sur le bras? C'est quoi? Il raconte quoi?
Vous voulez que je vous raconte vraiment?
Ouais, parce que vous le montrez, donc...
Ah non, je le montre pas, bon, justement. Ah non, il est justement à un endroit où personne ne le voit.
Ouais, il a la preuve, je l'ai vu.
Oui, mais parce que je suis en t-shirt et que je vous regarde comme comme Jésus avec les bras ouverts. Mais c'est un tatouage que j'ai fait très tard, parce que bah, ma mère, ça l'a gonflé, donc... Mais... À 47 ans, je me suis dit, écoute, fuck l'éducation, maintenant, ça suffit, ouais. J'ai envie. Et en fait, ce sont des... Mais il y a toute une histoire. Hein. Mais ce sont des fleurs de joie au Japon. Et pas chez nous, hein. Ce sont des chrysanthèmes.
Ah.
Voilà. Mais et il y a une histoire parce que j'ai eu... Il y avait un mec, un gros dégueulasse, qui était dans la boutique où j'ai fait ça, à Ubud, ou à Changu, je ne me rappelle plus, à côté de Bali. Dans la montagne, j'ai mis des jours à choisir, j'ai vu des milliers de tatouages, et j'en ai vu un qui était énorme sur le dos d'un Yakuza. Le Yakuza, c'est la mafia japonaise. Et j'ai dit au mec, est-ce que t'es capable de me faire ça en petit? Et il m'a dit, oui, bien sûr. Et il y avait un gros qui était là, visiblement homo, mais pervers, pas bien, en fuite de la France. Enfin, je voulais pas savoir pourquoi, on peut imaginer. Bref, dégueu. Plein de sueur, dégoûtant, puis qui était là tous les jours, à chaque fois que je venais, il était là. Et le jour où j'ai fait mon tatouage, ça a duré, je sais pas, 3-4 heures, c'était costaud, là, ça fait mal, là. Et j'ai bu 4 bières pendant le tatouage. Et le mec, en partant, il me dit, tiens, j'ai une super crème pour cicatriser, mets ça. Donc, ok, super, merci, ciao, hop, le gros, hein. Et je m'en vais. Et au bout de quelques jours, j'avais mis une chaussette que j'avais coupée au bout pour protéger ça du soleil, et au bout de quelques jours, moi, mes copains sont tous, la plupart de mes copains sont médecins. Enfin, c'est que la plupart des médecins que j'ai fréquentés sont devenus des copains.
Oui.
Et donc, donc j'ai appelé un de mes meilleurs potes, qui est dermato, et je lui ai dit, écoute, je suis emmerdé parce que j'ai des trous, j'ai des vrais puits qui ont traversé l'épiderme et qui vont quasiment jusqu'au derme. Je le vois, c'est profond et tout ça. Et je dis, je suis emmerdé, c'est grave ou pas? Il me dit, écoute, non, mais protège-le bien. Je dis, mais est-ce que le noir, quand ça va se reboucher, j'ai dit, le noir, bah, il me dit, bah, il n'y aura pas de noir, c'est la peau qui va, la chair qui va reprendre sa place. Et j'ai dit, mais oui, mais non. Et en fait, alors, donc, il m'a dit, surtout, tu ne mets pas de corticoïdes. Bah, j'ai dit, bah non. Enfin, je dis, bah non. Alors, je suis allé regarder le tube.
Et c'était des corticoïdes.
Évidemment, donc ça a creusé.
Ouais.
Et ce qui est étonnant, c'est que ça a creusé là où ça a fait des cœurs de fleurs qui n'existaient pas, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le truc était tout noir. Enfin voilà, je vous raconte un truc, tout le monde s'en fout. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était assez...
Il y a une histoire, quoi.
Non, mais c'est assez symbolique que les trous, tout dégueu, aient été à des endroits où maintenant, vous le voyez, ça fait les cœurs des fleurs.
C'est vrai. Non, voilà. C'est vrai. On reprend le fil.
J'espère que vous couperez ça au montage.
Pas du tout. Simone Veil, vous impressionnez. Qui d'autre vous impressionne aujourd'hui?
Les artistes en général, les chanteurs en particulier, les bons acteurs aussi. Je pense que chanteur, seul, sur une scène...
Qui? Lequel?
Je ne sais pas. Je ne sais pas vous donner de nom, là.
C'est la performance.
Julien Doré, tiens, tu vois, par exemple. Ouais. Voilà. Je le trouve extraordinaire, très impressionnant, super performeur, et du talent musical, et voilà. Julien Doré, voilà. Mais sans être... Enfin, voilà, si, sincèrement, en chanteur français, voilà. Et m'en demandez pas un autre, comme ça, on est peinard.
D'accord.
S'il vous plaît.
Ce qu'on va faire, on va marquer une pause musicale, alors une première.
Ah oui, très bien.
On va écouter le disque que vous avez choisi.
Oui, mais alors, faut qu'on...
Oui ou non?
Oui, mais faut qu'on en parle un peu.
Justement, on va en parler.
Ah, pardon.
Bangladesh.
Ah, pardon. Ah, bien sûr.
Et vous avez insisté, vous avez dit, il faut la version live.
Mais non, alors oui, mais alors... Alors, pardon, d'accord. Alors, c'était mon premier 45 tours, en fait. Ah. C'est-à-dire que j'avais 12 ou 13 piges. Et George Harrison, Bangladesh. On a été, quand j'avais cet âge-là, extrêmement extrêmement, enfin moi en tout cas, perturbé par ce qu'on nous racontait sur la faim.
Ouais.
Moi qui n'ai jamais eu faim en fait, au Bangladesh. Et quand on met ces images d'enfants squelettiques, enfin ouais. au-delà même, c'était, ça m'avait beaucoup beaucoup perturbé. Et le premier 45 tours que j'ai acheté, c'est donc de George Harrison qui s'appelle Bangladesh. Et il y a cette version en live qui était un concert pour le Bangladesh.
Le premier concert de l'histoire de la musique
voilà.
Populaire, je veux dire, fait, comment dire, de charité.
Oui, le premier charity concert avec toutes les plus grandes stars du monde, en fait, mm. avant We Are The World, ouais. dont j'ai oublié
oui,
le nom.
Oui, parce qu'on aussi. Est en 71.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Et bon, donc, voilà.
Save some lives.
Christophe de Chavannes et Norpi sur France Inter, on écoutait Bangladesh, George Harrison.
C'est bien, hein.
Ah, c'est bien, mmh. ça envoie, comme mmh. on dit. Hein. Vous êtes un homme engagé, vous. Vous avez toujours été un homme engagé.
Alors,
le site d'action, la capote à un franc
à l'époque. Ah, oui, oui, ça. Mais alors, ça, c'est parce que, il faut rendre à César quand même. J'ai eu une phrase un jour d'une compagne, enfin, plus qu'une compagne, qui m'a dit, on parlait du sida. Elle m'a dit, mais tu devrais faire quelque chose. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais ça a fait un truc, c'était une évidence.
Ouais.
Et donc, ça m'a fait démarrer immédiatement ma lutte pour la protection, parce que la prévention surtout. Et donc, oui, la capote, j'ai fait 60 millions, on en a fait des capotes.
C'était pas simple de s'engager sur cette cause-là à l'époque.
Non, parce que
la maladie était taboue,
tout le monde s'en foutait.
Honteuse,
bien sûr. On a fait la première émission sur le sang contaminé, déjà, avec Simon Mardi, avec une femme de l'événement du jeudi qui est morte, la pauvre, et dont le nom m'échappe, mais Carmouze connaît très bien son nom. Je l'ai oublié, mais je lui rends hommage. Et donc, on a fait la première émission du sang contaminé et on s'est fait défoncer, en fait, ben, si tu veux, ça n'a jamais été dit dans toutes les reprises, les papiers qu'il y a eu, les articles, mon Dieu, par milliards, sur le sida, sur le sang contaminé. Jamais, Ciel Mon Mardi a été cité comme étant une émission où, à la télévision, pour la première fois, on parlait du sang contaminé. Parce que j'ai toujours eu ce souci avec les journalistes qui ne me considéraient pas comme un journaliste et qui ne voulaient pas, un peu quand même, vraiment, je peux pas être un parano, hein, ouais. Je m'en fous, mais il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse pour être curieux, en fait. Et donc, vous parliez de la carte de presse 43207 tout à l'heure que j'ai perdu, donc en je sais plus quelle année, là, à 85, 6. Voilà. Et je veux dire, il fallait faire quelque chose pour la prévention du sida. Donc, enfin, je veux dire, pour moi, l'idée qu'on meure de l'amour, c'était pas possible. Voilà. Ouais. C'est un peu con, mais
c'est une vision un peu romantique des choses, en fait, ou c'est aussi une volonté de rendre un peu tout ce que vous aviez, ou de
non, c'est de rendre tout ce que j'avais.
Bah, tout ce que vous aviez gagné, obtenu, rendre à la vie, en fait. Voilà, en étant du côté plutôt des privilégiés.
Non, j'ai rien à dire. Bien sûr que je suis privilégié, mais je dois rien à personne. Mais je l'ai fait pour les gens.
Ouais.
Je l'ai pas fait pour moi. Tu vois, un jour, par exemple, j'ai fait un projet d'affiche, parce qu'on a fait circuler des avions sur toutes les plages, ouais, avec des bandeaux derrière marqués sortez couverts. Enfin, on a fait des distributions. J'ai fait partir un train avec la SNCF, qui était le train sortez couverts, où Patrice Carmouze était chef de gare de Lyon, avec sa casquette blanche. Et le seul mec qui a refusé que le train s'arrête dans sa ville pour qu'on distribue des capotes, c'était Lyon. Et c'était Michel Noir. Et je me suis dit, bah tiens, le karma, moi j'y crois, on va voir. Bah, c'était vite vu. Ouais. Et c'est fou. Moi, je crois beaucoup au karma. Alors, il y en a pour qui ça traîne un peu. Hein. J'avoue, il y en a, je me dis, qu'est-ce qui fout le karma? C'est un peu long. Mais quand même, c'est comme ça.
Là, je vous demande pas de nom parce que vous serez capable d'en donner.
Oui, ouais. Vous avez raison. Ouais. Et donc, il fallait... Enfin, je veux dire, oui, j'étais très privilégié. Oui, je me devais avec... le cadeau que j'avais de faire ce travail que j'aimais, qui me faisait gagner de l'argent, qui en faisait gagner beaucoup aussi à la chaîne, hein, je n'avais pas le droit d'avoir cet outil entre les mains et de pas m'en servir pour les autres. Voilà.
Vous avez grandi avec un papa qui était alcoolique, Christophe de Chavannes. Vous aviez d'ailleurs accepté d'en dire quelques mots, une fois, je crois. C'était face à Thierry Ardisson en 2016.
L'alcoolisme est une véritable maladie.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'il faut pas se moquer des gens. Moi, j'ai toujours eu du mal avec des copains. Moi, j'ai été touché par quelqu'un très très proche qui est mort très jeune. Mon père, de l'alcoolisme, à 54 balais. Donc, il est mort de ça. Donc, je connais ça très très bien. Et c'est pour ça que je vous trouve magnifique d'en parler aussi librement, parce que normalement, les alcooliques sont dans le déni le plus total. Et c'est très bien d'avoir un témoignage comme celui-là, parce qu'aujourd'hui, les jeunes boivent très vite, beaucoup. Et de manière incroyablement forte.
On retrouve quelque chose qui est assez marquant de votre personnalité, c'est cette volonté de tout rendre utile.
Vous me cueillez un peu là, j'avoue.
Pardon.
On parle de Julien Doré et puis on parle de mon père alcoolique. Et moi, j'ai failli l'être. Alors voilà. Et je le fus même, sans doute. Mais pas autant que mon père. Hein. La preuve, c'est que je suis là. Mais c'est une vraie merde, ce truc.
À l'époque de la télé, vous l'étiez ?
C'est-à-dire, un peu quand même, parce que j'ai fait la télé pendant 30 ans, donc, non, avant, quand j'avais 14 ans. Cela dit, malheureusement,
ça arrive.
Et donc, c'est vrai que c'est terrible, parce que, mon père était donc alcoolique. C'est un drôle de mot. Moi, je préfère dire alcoolo-dépendant, maintenant. Bon, il se trouve que peu importe. Je préfère dire alcoolo-dépendant. Et les gens ne se rendent pas compte, les jeunes notamment ne se rendent pas compte, un, du danger, pour eux-mêmes par exemple, deux, s'ils voient, moi quand j'étais avec des potes qui se foutaient d'un mec bourré dans la rue, ça me faisait pas rire, et pour cause. Mais moi j'ai découvert que mon père était alcoolique très tard en fait, parce que jeune je me rendais pas compte, il regardait la télé en se fermant un œil. Là je vais peut-être réveiller plein de gens s'ils écoutent. parce que j'ai découvert ça en rentrant avec un pote un jour avec qui je dînais, où je devais être steward et partir vendre des chambres d'hôtel clé en main en Afrique. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Et le mec me parle de son père alcoolique et je lui dis ah bon. Tout d'un coup je dresse la tête et me dit oui. Et puis alors, quand il conduit, il ferme un œil. Et tout d'un coup je percute que mon père regardait la télé d'un œil. Et en fait c'est pour éviter de voir double.
Ah.
Quand vous êtes pété. Et
c'est là que vous avez compris.
Et il y a ouais, c'est là que j'ai compris. Oui. Et j'avais 20 piges, donc c'était tard, mais je me rappelle être allé aider mon père à aller se coucher, tout ça. Puis il regardait la télé d'un œil parce qu'il avait un problème à l'œil, mais pas du tout, en fait. Et donc quand des copains se moquaient d'un type pété dans la rue, je disais c'est pas drôle, il faut pas se moquer. Alors, bon. Et puis moi j'ai eu droit à tout. Hein. Oh, on a vu ton père dans un bar, dis donc, qu'est-ce qui se met. Bon, mon père il est mort, il avait 54, c'est jeune, c'est très jeune. Et moi, jusqu'à 54 ans, j'ai flippé ma race de que mon billet soit pas valable au-delà de cette limite-là. Hein. Et quand j'ai passé 54 ans, j'ai fait ouf. Ouais. C'est un drôle de truc. Donc moi, j'ai pas été alcoolique, mais on va dire que j'ai un peu bu à un moment donné, régulièrement, sans me taper dans les murs. Hein,
ouais.
Mais enfin, si à Cannes, mais sans me taper dans les murs. Mais quand c'est régulier, quand vous rentrez le soir, un petit scotch pour vous détendre parce que la journée a été. On fait un métier qui est top, mais qui est pas forcément simple tous les jours. Mmh. Hein, on va pas se plaindre. Mais enfin là, particulièrement compliqué. Mais voilà. Et donc un petit scotch pour se détendre, puis peut-être un deuxième, puis après un petit coup de rouge à table délicieux parce qu'on a la chance de pouvoir acheter du bon vin tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est fini. Voilà, j'ai vraiment fait un.
Et aujourd'hui, comment vous sentez? Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter tout ça? C'est l'orgueil, c'est une
forme. Oh non, je suis pas orgueilleux. Oh, sûrement un peu. Oui.
Bah, il faut un peu de fierté.
Non,
quand
l'amour
même,
propre peut-être un peu. Ouais. Oui, je préfère l'amour propre que de l'orgueil.
Ouais.
L'orgueil, il y a un petit côté. Je connais des gens orgueilleux, c'est pas très empathique.
Ouais.
Qu'est-ce qui m'a aidé à surmonter tout ça? Des gens dans ma vie. Principalement ces dernières années. Et j'ai un petit problème avec les addictions, c'est que je suis très fragile à y aller,
ouais.
Très facile à y aller, et en même temps, avoir vu mon père comme je l'ai vu, pour moi c'est pas possible qu'on me voit comme ça. Donc, mais l'alcooliste n'est pas seulement le mec cassé en deux. Moi, si vous voulez, un type qui se fait une fête le samedi et qui se met cartable avec des copains comme vous, machin et tout ça, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. On s'amuse et basta. Ce qui est dangereux, c'est cette chose régulière, insidieuse.
C'est quand il se resserre le dimanche matin, qui se resserre le
matin,
soir, là, midi,
mon Dieu,
pardon.
Non, mais le matin, bien sûr, plein, ouais. Bien sûr. Ouais. Et, y compris la personne dont on a parlé, on va arrêter d'en parler d'ailleurs, de mon rep, mais ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert après sa mort. Mais si on boit le matin, c'est très grave en fait, parce que c'est très très difficile. Enfin, la femme qui partage ma vie est addictologue et elle me raconte des choses sans nom, sans rien. Il y a le secret médical, mais des choses. C'est tellement difficile pour les gens de s'arrêter. C'est affreux. C'est très très difficile et je le dis aux gens. Qui sont peut-être proches de pencher sans s'en rendre compte et tout ça, c'est une énorme merde.
Mmh.
Voilà. Et c'est très difficile de s'arrêter. C'est peut-être un des trucs, c'est plus difficile que la drogue de s'arrêter de boire.
Mmh. On va parler du papa que vous êtes, vous, maintenant. Trois enfants.
Oh là.
De trois mamans différentes.
Vous êtes sûr que vous voulez qu'on rentre dans ces trucs intimes, là?
Non, moi je vous pose la question, vous voyez pour les réponses, hein. C'est trop intime,
oui.
Ça va trop loin pour vous?
Là, pour l'instant, trois enfants de trois mères différentes, ça va.
Ouais, mais est-ce que socialement ça a été dur, par exemple? Vous êtes un papa réputé très très aimant. Vous avez la réputation d'être un très bon papa. Voilà. Quand on lit les choses sur vous, moi je vous connais pas.
Faudrait demander à mes enfants surtout, non?
Qu'est-ce qu'ils en diraient?
J'en sais rien. Faut leur demander.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je pense que j'ai merdé une période de ma vie, forcément.
Ouais.
Forcément. Parce que.
Vous êtes dur avec vous, quand même. Hein. Qui n'a pas merdé une période de sa vie?
Oui, je suis dur avec moi-même. Moi. C'est un peu pénible d'ailleurs.
Ouais.
Je suis pas très sympathique avec moi-même.
Ouais, vous êtes, ouais. On vous aime plus que vous, vous ne vous aimez.
C'est possible, oui,
ouais,
oui, ouais. Oui, oui.
Oui. Oui.
Oui, docteur.
Oui, allongez-vous, je vous en prie.
Ah oui. Non, c'est pas mon truc.
Aujourd'hui, il y a un petit peu.
Je reste assis.
Il y a un petit peu moins de. Il y a un petit peu moins de lumière sur soi et sur vous. Ça,
ouais.
ça vous fait du bien, en fait,
non.
Ou ça fait un peu mal au cœur?
Ça fait les deux.
C'est vrai?
Oui, ça fait du bien. Et ça fait un peu mal au cœur.
Ouais.
Bon oui, parce que je me connais, je sais quelles sont mes capacités, je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire, je sais ce que j'ai... je sais ce que je vois aussi, ou que je ne vois plus, que je ne regarde pas. Et il y a un peu d'incompréhension, il y a un peu de... Mais je suis pas... C'est fini, ça. Mais il y a quelques années, il y a deux ans et demi, j'ai dit à Pascal Clark à la radio, je me donne 3 ans et basta. Mais j'ai pas attendu, là. 3 ans, c'est bon. Ouais. En fait, alors j'ai lu des trucs dégueux, parce qu'à chaque fois que vous dites quelque chose à la radio, même si vous le dites avec une vraie phrase bien articulée et bien chez vous, par exemple, quand je suis venu le matin, quand on a parlé, Télématin, quand on a parlé du capitaine Marlowe dans lequel j'ai joué, à un moment, j'ai dit, je ne sais pas, de toute façon, ils ont mon numéro de téléphone, tu vois, s'ils veulent, ils m'appellent, machin. Et c'est devenu, j'ai eu 40 trucs sur Google.
Ah bon, j'ai pas vu.
Bah oui, mais c'est normal, c'est mon nom.
Vous tapez votre nom sur Google?
Non, ça vient tout seul. Ouais. Et je devrais les enlever, d'ailleurs, ces alertes à la con. Mais de temps en temps, je veux savoir un peu ce qui se passe, parce que si par exemple une certaine Laure de Chavannes ou un Jean-Luc de Chavannes, parce que je croyais quand j'étais jeune que j'avais un nom assez unique, et en fait il y en a 12 000, mais comme il n'y avait pas internet à l'époque, dans les pages jaunes il n'y en avait pas beaucoup, c'était, il y avait ma famille, quoi, et là il y a plein de gens que je connais pas qui s'appellent de Chavannes, c'est rigolo. Et donc j'apprends que Odette de Chavannes est décédée, je dis merde, putain, non c'est pas chez moi. Et non, je sais pas, oui, donc, et je vous ai dit ça, et c'est devenu ils ont mon numéro de téléphone, mais le téléphone ne sonne jamais. C'est pas du tout comme ça.
C'est pas comme ça que vous l'avez dit.
Non, pas du tout. Évidemment. Non. Et c'est devenu ça. Donc il faut faire très attention à ce que je vous dis ici. J'ai peut-être déjà été trop loin du reste, parce que j'y pense pas assez. Parce que malheureusement, on est dans un contrôle, dans une obligation de contrôle aujourd'hui, puisqu'on parlait des libertés à une époque qu'on n'avait pas avant ces putains de réseaux sociaux. Pardon, hein, je parle comme un vieux, et puis alors Elon Musk qui achète ça 44 milliards, alors le mec qui prône la liberté d'expression la plus absolue, ça va devenir un déversoir à haine, à homophobie, à antisémite, à racisme, que sais-je, j'en sais rien. On va voir. Hein. De toute façon, j'ai déjà des followers qui m'ont quitté depuis qu'Elon Musk, ils sont barrés de Twitter, quoi.
Oui.
C'est un truc de ouf. Parce que il fait peur, le mec. Bon, lui-même est un peu. J'ai vu des images l'autre jour, là. Il était présent au gala du Met. Il fait peur. Hein.
Il n'est pas forcément rassurant.
Non.
Musique,
s'il vous plaît.
Votre deuxième choix. Assez inattendu.
Ah ben, je vous aime.
Assez inattendu.
Ah ben oui, mais alors là, si vous voulez, je me suis dit, ok. Alors là, on vient quand même d'être un peu trop sérieux. Je ne sais pas si j'aurais dû vous dire tout ça, hein, du reste, parce que ça va ressortir. C'est sûr, je vais m'en prendre. C'est sûr, ça va pas me plaire,
mais
parce
on s'en
que
fout.
Ça va. Oui, on devrait s'en foutre. Oui, mais on devrait.
Est-ce qu'il faut pas s'adresser à ceux qui prennent le temps d'écouter les phrases en entier?
Ouais. Oui, mais oui, mais malgré tout.
Est-ce que vous dites pas ceux qui vous aiment, qui vous ont suivi, qui vous suivent, qui ont encore envie de vous voir, qui ont envie de vous revoir?
Ben, oui, mais là, je vous fous mon billet qu'on va lire dans lundi. Il y aura mon père alcoolique et tout ça, mais c'est sûr. Et moi, j'étais alcoolique. En gros, là, ça va être. Ouais. Oui, mon passé alcoolique, mais j'en ai pas de passé alcoolique. Hein, on va se calmer tout de suite. Je le dis là maintenant. Hein. J'aurais pu le devenir.
Vous avez envie qu'on écoute votre deuxième chanson?
Non, je reviens là-dessus parce que je vais morfler sinon. Mais pardon, c'est de votre faute. Fallait pas m'en parler. Qu'est-ce que vous m'avez un peu cueilli quand même. Donc voilà.
C'est une médaille pour moi de cueillir de Chavannes quand même. En toute bienveillance.
Et ben, puisque vous me cueillez, on va faire l'enchaînement avec les cerises.
Voilà, puisque la chanson s'appelle L'amour et cerises.
Mais avant de l'envoyer, on peut parler 2 secondes.
Allez-y.
C'est signé Jean Ferrat.
Oui.
Vous l'avez écouté?
Oui.
Et vous avez rigolé?
Oui.
Parce que c'est pour moi.
J'ai l'impression d'être bourdin là. Oui.
Quand j'étais petit.
Oui, Christophe.
Quand j'étais petit, Jean Ferrat, tu vois, c'était waouh. Ma mère, Jean Ferrat, c'était waouh, le poète communiste, enfin une espèce de personnalité comme ça. Et moi, un jour, je suis tombé sur Le Temps des cerises. C'est juste dégueulasse, en fait. C'est-à-dire, il faut bien écouter les paroles jusqu'au bout. Je veux bien qu'on laisse les micros ouverts, peut-être même. Malheureusement, les vrais amoureux de Jean Ferrat vont me haïr, mais c'est tellement dingo. C'est l'histoire d'un mec qui va voir une meuf, mais c'est poétique, mais c'est tout aussi dégueulasse que si c'était écrit avec des trucs dégueulasses.
On l'écoute.
La 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 la, ça commence comme ça, vous allez voir. Ah oui, non, c'est incroyable.
Rebelle et soumise, paupières baissées, quitte ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise, et le temps pressé, c'est parti remise, pour aller danser. La 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 qu'il nous semble raisonnable et fou. Nous irons ensemble au-delà de tout. Prête-moi ta bouche pour t'aimer un peu. Ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu.
Pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il va foutre là? La 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 la.
Laisse-moi sans crainte venir à genoux.
Écoute ça.
Goûter ton absinthe, boire ton vin.
Non, mais boire ton vin doux.
Aux rires et plaintes, aux mots insensés. La folle complainte, s'éviter lancée.
Non, mais ton vin doux, ton absinthe. Il a des moustaches, le mec, on imagine. Avec les moustaches toutes. Avec des petits pois.
Défions le monde et ses interdits. Ton plaisir inonde ma bouche ravie.
Ton plaisir inonde ma bouche ravie.
Par Dieu, je m'en fous.
Écoute, écoute.
Je perds ma semence dans ton sexe.
Je perds ma semence dans ton sexe. Bon, alors pépère à jouer. Comment ça va se finir? Non, mais c'est dégueu.
Aux pierres de lune, aux monts et merveilles. Voilà que ma plume tombe de sommeil.
Oui, bon.
Et comme une louve aux enfants frileux,
non, mais...
la nuit nous recouvre de son manteau bleu.
Comme une louve aux enfants frileux. Non mais, non, mais c'est pas dégueulasse, mais c'est tellement gros parce que c'est super porno en fait.
C'est la vie.
Mais bien sûr, non mais j'ai pas de problème de... Mais les termes employés, tu vois, je vais boire ton vin doux, ton sexe roux, inonde ma bouche, enfin, c'est extraordinaire parce que je suis persuadé qu'il y a des millions de gens qui ont écouté cette chanson.
Sans jamais faire attention.
Mais sans jamais faire gaffe, vraiment, pile poil, c'est le cas de le dire, que c'est quand même très très précis.
Hein. Là, ils sont des niaisés, hein, là.
Ah là, on les a mis
en là, on a une explication de texte qui va avec.
I am the traducer.
Ouais. Vous auriez pu chanter ou pas?
Translator, pardon.
Vous auriez pu chanter?
Non,
ou pas,
j'aurais adoré chanter.
Ouais.
Ouais, j'aurais adoré chanter. Et quand je suis allé prendre des cours il y a 5 ans, je suis allé prendre des cours sur l'insistance d'une camarade qui me disait, mais tu devrais. Et alors, je suis allé voir une prof, et comme tout le reste, dès qu'il faut... c'est-à-dire que je joue, moi, du boogie, 5 minutes. Parce que dès qu'il a fallu apprendre, je me suis arrêté. Donc j'ai 2-3 dons, la nature m'a doté de 2-3 bricoles. Je joue bien, 5 minutes, je te fais un boogie. Moi, c'était un piège à filles, hein, le truc, hein. Tu vois? Et, mais voilà, après, je connais pas les accords, je sais pas lire la musique, voilà. Et là, j'ai chanté, la fille m'a dit que j'étais un ténor, je crois, hein, un vrai. Parce que je déteste ma voix, en fait. La voix que j'ai aujourd'hui, c'est pas ma voix. Vous avez vu, la voix d'avant, là,
elle était fluette.
Et en fait, c'est le problème des ténors qui ont des voix de merde et qui, à force d'à-force, la cachent. Et je pense que la voix que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est une voix qui est travaillée, c'est pas ma voix naturelle. Enfin, c'est ce qu'elle me dit.
Vous vous souvenez d'un duo
Donc j'ai arrêté de chanter parce qu'il fallait apprendre et que c'était très compliqué, les vocalises et tout ça. Mais j'ai de l'oreille, en revanche.
Un duo entre Chaïm et Christophe de Chavannes, vous vous souvenez?
Oh oui, mais j'étais mauvais ce jour-là.
Si d'Action 2015.
Oh putain.
Sur le bout de la langue, ton prénom presque effacé, comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté.
Il y a un album en préparation.
Car la de ton amour m'ont épuisé.
Oh là là. Mais là, je le ferais mieux aujourd'hui, mais en fait, c'était ma première chanson.
Ouais, en tout cas, vous osez, vous faites, vous tentez.
Bah, c'était dur, j'ai bossé comme un demeuré pour être moyen, alors qu'elle, elle arrive, elle avait rien fait à l'avance, et en 2 minutes. C'est la différence entre Federer et vous, par exemple.
Il y en a beaucoup.
Voilà. Et elle, en 2 minutes.
Même s'il ne m'a jamais battu au tennis.
Qui ça?
Federer.
Bah, t'as jamais joué avec.
Ça,
bien sûr.
Factuellement, c'est exact.
Mais t'as pas chanté avec Chaïm, moi, oui.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. C'est quoi
mais
la
c'est
suite?
C'est gentil de passer ça. Non, mais en fait.
C'est
oui.
La comédie ou pas la suite? C'est
parce que j'ai vu quel rêve.
Chez Marlowe.
Ouais, quel rêve.
C'est vrai.
Bah, j'ai eu plein de compliments, en fait. Alors, en plus, mais c'est pas moi. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de promos, hein. J'étais beaucoup au charbon, y compris au petit matin chez vous sur France 2. Et donc, puis je suis assez, voilà, je suis par petits bouts. Vous l'avez même pas vu sur.
J'ai vu un extrait, j'ai pas vu.
Avec moi dedans, au moins.
Ouais, bah oui, quand même. Avec votre pull de gendarme.
Et j'ai eu, franchement, j'ai eu des, enfin, il y a même quelqu'un de très important à France Télé qui m'a dit, bien joué. Oh, Anne Holmes. Voilà. Et qui m'a dit, bien joué. Et moi, quand j'entends quelqu'un comme ça, qui me dit ça, j'ai 18 ans, et je suis heureux comme tout. Parce que, pour ne rien vous cacher, ça fait quand même quelques années que j'ai pas eu de compliments.
Ouais.
Et que c'est toujours agréable un compliment s'il est sincère. Hein. Sinon, le reste, je m'en fous. Hein. Mm. Mais, et là, les gens qui m'ont dit que j'avais bien travaillé, j'étais très heureux. Et donc, je voudrais, comme le reste, on a bien compris que c'était mort. Mais vraiment, quand je dis on a bien compris que c'était mort, je le dis avec autant de légèreté que le ton que j'emploie.
C'est bon, parce que moi j'y crois, je suis ni producteur ni patron de rien du tout, mais je crois pas du tout que ce soit mort. Mais c'est un autre
mais
sujet.
Mais vous n'êtes pas le seul.
Je crois pas du tout que ce soit mort.
Vous n'êtes pas le seul.
Je veux dire pourquoi, parce que moi, il y a une émission avec De Chavannes qui est programmée la semaine prochaine, je la regarde, et je pense que je suis pas tout seul. Voilà.
Oui, mais faut croire que... Faut croire que vous n'êtes pas décideur.
Non,
mais,
pas du tout.
Tu vois, voilà. Non, non, moi, mais je dis ça avec autant de légèreté que le ton que j'emploie. Faut vraiment pas, tu vois, faut pas que ça fasse encore un titre alcoolique, ex-alcoolique.
Non, mais là, ils ont qu'à faire titre avec il a eu des compliments de France 2. Voilà.
Voilà, c'est ça, voilà. Et donc, je voudrais être acteur. J'en rêve, en fait. Alors, et quand je vois des gens jouer, je me dis, je leur arrive pas à la cheville, mais il suffit de pratiquer. C'est comme la course automobile. Quand je suis arrivé au début, les gens me rayonnaient, et puis tout d'un coup, j'ai fait des chronos, et puis tout d'un coup, j'ai fait des pôles, et puis tout d'un coup, j'ai fait des podiums. Et puis j'ai emmerdé tout le monde.
Ça n'a pas changé en fait. Hein. Parce que moi, quand je regardais Ciel Montmardi, ça finissait à pas d'heure, vous étiez toujours en retard.
Oui.
Là, on est presque au bout. L'objet.
C'est ce que ma femme dit.
L'objet, s'il vous plaît, Christophe.
Je vous en prie. Alors, ça, c'est un truc.
Une sacoche, là, c'est un peu militaire.
C'est un truc. Oui, non, c'est pas du tout militaire, c'est parce que c'est une copine qui m'a offert ce truc camou, parce que ça s'appelle comme ça au Canada.
Camou.
Camou, on dit camou. J'ai un pantalon aussi, comme ça, en camou. Tu sais, c'est des trucs comme les militaires, mais on dit pas militaire.
Alors l'objet.
J'arrive. Je vous dis, c'est pire qu'une fille. Je mets 4 heures à trouver.
Il y a un bordel là-dedans ?
Mais oui, il y a un bordel.
Petit billet ?
Mais non, je vais pas le vider.
Ah bah si,
non, non, je peux pas. Mais non. L'autre. Non, si, je pourrais le vider, je m'en fous.
Le téléphone. Donc ça, LDN est une lunette.
Attends, non, mais je regarde quand même si je peux vraiment
le vider. Des cachetons.
Bah oui, non, je suis un peu hypocon. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Bon, allez, on y va, mais...
Il faut le vider.
Ah, merde.
Voilà. Hop, des oreillettes.
Voilà.
Portefeuille.
Camou, encore, Camou. Pour essuyer les lunettes.
Voilà.
Mes clés.
Boule qui est.
Ah, voilà.
Ah,
voilà.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une pièce... Enfin, c'est comme un jeton. C'est plus épais qu'une pièce. Il y a marqué... C'est en argent. Il y a marqué d'un côté oui, et de l'autre côté, il y a marqué non. Et donc, moi, je le jette comme ça, je le mets là. Mais d'abord, je me suis posé une question, et puis je regarde. Et je suis pas du tout superstitieux. Ça porte malheur, la bonne blague. Mais donc, cette merde là qu'on m'a offert, qui est très jolie, hein, c'est un bel objet.
Ouais, c'est un bel objet. Hein, bel objet. Ouais.
Il y a marqué oui un peu en romain.
Un peu à la romaine, ouais.
Voilà, non, voilà. Et bien, figurez-vous que récemment, je m'en suis servi pour une question très très importante de ma vie. Que je ne dévoilerai évidemment pas. C'est très intime. Et je me suis dit, ok, je vais le faire au meilleur des 5-7.
Ah, au meilleur, c'est quand même pas sur One Shot quand même.
Voilà. Bah oui, parce que sur One Shot, tu peux vraiment l'avoir dans la balayette, voilà. Ouais. Et donc, je l'ai fait au meilleur des 5-7, et trois fois de suite, ça a dit non. Et j'ai bien les boules. Voilà.
Et vous avez respecté la décision du sort, du hasard.
Enfin oui. Voilà.
Ok, voilà. On n'en saura pas plus.
Non.
Merci,
non,
merci beaucoup Christophe De Chavannes.
Je vous en prie, c'est
merci
moi qui vous remercie.
D'être venu faire du
hors-piste. C'était un peu intime, hein. Je ne sais pas si le hors-piste était vraiment raisonnable sur certains trucs. J'en risque de le regretter.
Mais vous utilisez encore pas mal de liquide, vous, hein, visiblement.
Oui, mais enfin, c'est des billets de 20.
Oui, c'est vrai, voilà. 20 et 10.
Et j'ai une passe à billets, comme les vieux.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est étonnant, 64 ans, Christophe De Chavannes. Merci d'être venu faire du hors-piste.
Merde.
Sur France Inter, merci aussi pour tout ce que vous nous avez déjà donné
à
la télévision et tout ce que vous avez encore à nous donner. Merci à l'équipe de Hors-Piste, Marie Merrier à la réalisation, Charlotte Loulou à la préparation.
Bravo les filles.
Manon Rax à la mémoire vive et Adèle Caglar aux manettes. Prochain Hors-Piste dans une semaine.
Ah, je reviens?
Non, c'est pas avec vous.
Ah, c'est qui?
Bah, on sait pas encore.
Ah, d'accord.
Christophe De Chavannes, vous avez encore un peu de boulot puisque dans Hors-Piste, le dernier mot est pour l'invité. Et donc pour vous, c'est un mot, c'est pas un chapitre, c'est pas un livre, hein. C'est un mot. Ou deux.
Je vous aime.
Moi aussi.
Mais c'était pas à vous, je le disais.
Moi, je le prends pour moi. Dans un instant, vous retrouvez Claire Servageant et un dimanche de campagne sur France Inter.